avez parlé de Maastricht.
C'est un village ou une ville enclavée, Lothringen. Vous pourriez déjà me parler de ce lieu géographique tel qu'il existe, dans son histoire, déjà le situer. Et pourquoi ce lieu aujourd'hui?
Lothringen, c'est tout simplement en allemand Lorraine. Simplement, la Lorraine, c'était une très grande province française. Ça allait de la.
Lothringen, c'est Lotharingie.
C'est la racine Lotharingie, comme Lorraine, Lothaire, etc. Et la province française qui s'appelait Lorraine, elle allait de la Bourgogne jusqu'au-delà des Vosges, en tout cas jusqu'aux confins des Vosges avec l'Alsace. C'est d'ailleurs une province qui a collaboré avec les Allemands à la fin des guerres de religion pour massacrer les paysans rebelles en Alsace. Bon, ensuite il y a eu ces Polonais là, qui ont fabriqué la place Stanislas à Nancy, etc. Nancy et Metz, c'est les deux principales villes de la Lorraine. Et il y avait les trois évêchés, Metz, Toul et Verdun. Mais quand on appelle le film Lothringen, c'est en allemand, c'est parce que pour les Allemands, quand ils disent Lothringen, c'est pas du tout la province française, toute cette grande province française qui était une des plus grandes. C'est une petite partie de cette Lorraine, et cette petite partie s'étend de la frontière tout près de Sarrebruck, c'est Forbach. Donc disons de la frontière allemande à Forbach, en passant par le plateau lorrain jusqu'à la frontière luxembourgeoise, c'est-à-dire à la frontière qui arrive tout de suite au-delà de Hayange, à Gondange, Thionville, au Luxembourg, voilà. Et le dernier plan avant la forêt, là, ça s'appelle Moyeuvre-Grande, et ça c'est ce qu'on voit au fond, à l'horizon, ce qui fume encore, les usines qui fonctionnent encore, c'est déjà des usines luxembourgeoises, alors que les rails du côté français sont rouillés, c'est les rails qui charriaient le minerai de fer, et qui jusqu'il y a encore quelques années, c'était une région extrêmement riche. Et c'est cette bande de terrain-là, au milieu de laquelle se trouve la seule grande ville... Qui a été annexé en même temps de cette bande de terrain, qui s'appelle Metz, c'est-à-dire entre Sarrebruck et Luxembourg. Alors il y a le plateau lorrain, il y a Metz, et puis il y a la vallée de la Moselle, une partie de la vallée de la Moselle, et puis il y a la vallée de l'Orne et de la Fensch, qui sont les deux bras du reste de la Lorraine sidérurgique, et en commençant à frontir de Sarrebruck, il y a déjà les mines de charbon et de fer et de charbon. C'était Sidelor, c'était les de Vindel, c'était tout le bazar. Bon. Et les Allemands ont bien été obligés d'accepter Metz au milieu de ce cadeau industriel qu'on leur a fait, cette richesse industrielle, appelons-la comme ça, puisque c'était pour compenser le manque d'or que... La faillite française après la défaite de Sedan, qui ça suffisait pas alors qu'ils avaient demandé comme dédommagement. Alors on leur a offert ça en plus, mais Metz, ils en voulaient pas tellement. Même Bismarck était un peu gêné, il disait: Metz, qu'est-ce qu'on va en faire? Ils vont nous emmerder, ces gens-là, qui sont vraiment pas disposés à être allemands, etc. Bon, mais n'empêche que ça a duré 35 ans, tout ça. C'est quand même long, hein. Plus de 35 ans, de 71 à 1918, c'est énorme, hein. C'est énorme. Et c'est quand même une nuit qu'une bourgeoisie qui ne fait que des conneries jusqu'à déclencher une guerre qu'elle perd, et qui précédemment n'avait fait que des conneries économiques, puisque c'est pour ça qu'ils ont déclenché la guerre, c'est parce qu'ils n'arrivaient pas à s'en sortir, ils ont fait plus ou moins faillite, ils ont rêvé de révolution industrielle en imitant les Allemands, la Roure et les Anglais, etc. Ça n'a pas marché, en tout cas très mal. Bon, alors ensuite, comme d'habitude, la fuite, c'est dans la guerre. Et ils perdent cette guerre. Bon, les vainqueurs exigent des dédommagements. Rien de plus normal. Alors, on leur donne de l'or, et l'or ne suffit pas. On leur donne les mines de fer et de charbon, et la sidérurgie, et puis, bon. Et puis ça ne suffit pas encore. Alors on leur offre Versailles pour couronner le petit roi de Prusse, empereur d'Allemagne. Ce qui est un beau cadeau aux Allemands d'ailleurs, parce que le reste de l'Allemagne n'avait pas du tout envie d'un empire allemand. La reine Annie, etc. La Souabe, la partie au nord, vers Hambourg, et tout ça ne veut pas du tout envie de se faire annexer par la Prusse et de devenir un empire allemand. En Rhénanie, ils ont toujours presque détesté les Prussiens. Alors ce petit roi de Prusse, avec la bénédiction de M. Thiers et de la bourgeoisie française qui en partie avait fui en ballon comme M. Gambetta ou en partie avait abdiqué comme Napoléon le Petit, se voit offrir un troisième cadeau. Et ce troisième cadeau, c'était aussi pour remercier de l'aide qu'ils avaient apportée pour écraser la dernière résistance après que Bazaine avait été contraint par le gouvernement lui-même à capituler à Metz. Le dernier foyer, c'était Paris. Et il se trouve que ce foyer-là, ça s'est transformé en commune de Paris. Mais enfin, c'était pas ça au point de départ. C'était des gens qui acceptaient pas de se faire envahir après la défaite de Sedan et qui pensaient qu'on pouvait encore résister. Mais au contraire, ces gens qui avaient mal calculé leur coup et qui avaient fait faillite et qui avaient en plus essuyé une défaite cinglante, ces gens-là prétendaient capituler plutôt que nécessaire et peut-être d'une manière qui n'aurait pas été nécessairement nécessaire. Et les Parisiens donc qui ont résisté, bon, lentement c'est devenu la commune de Paris et là il fallait faire quelque chose. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que Bismarck, qu'on voit, bon, c'est pas seulement chez Brecht, mais c'est une vieille idée, c'est pas seulement une métaphore. Hein. Monsieur Thiers et Bismarck étaient sur les collines de Saint-Cloud et regardaient brûler Paris et les communards se faire massacrer. Il y en a eu 30 000, c'est pas mal. Et c'est à partir de là, c'est sur ces fondations-là, de 30 000 cadavres de Parisiens parmi les meilleurs, que moi je prétends que ceux-ci sont les fondations de l'Europe qu'on est en train de nous parfaire. C'est le premier dégraissage, ça. C'est le premier dégraissage, on appelle ça dégraisser de nos jours. Alors de nos jours, on dégraisse partout, dans les usines. Et d'abord, on a dégraissé justement dans les mines de fer et de charbon et la sidérurgie de la Moselle. Ensuite, on a dégraissé les paysans en pagaille, mais ça a duré depuis quelques siècles. Mais enfin, on a parfait le travail, parce qu'enfin, il y avait 20 millions de paysans en France, et on se retrouve avec, certains disent 60 000, d'autres 70 000 paysans. 700 000, ou 708 000, ou 800 000 paysans. Bon. Voilà, c'est tout. Premier dégraissage. On a fait du savon avec les cadavres des communards, et sur ce savon, on a fondé l'Europe nouvelle, qui était l'Europe de la bourgeoisie industrielle. Voilà. Et la bourgeoisie industrielle, ensuite, il y a eu quelques avatars avec le nazisme, enfin, c'était toujours la même chose, parce que les nazis se sont servis de la bourgeoisie industrielle allemande, de la Ruhr, s'est servi des nazis pour durer. Et au-delà de la... Ouais, bon, espérons.
C'est un optimiste. Ouais. Mais non, il y a un truc que moi je voudrais dire qui n'a pas de rapport à ça, mais je voudrais dire parce que j'ai remarqué que les gens ne font pas très attention au début du film.
Enfin, Sarrebruck-Metz, ça fait 80 km. Metz-Luxembourg, ça fait 60 km. C'est pour vous donner une idée de la question de départ de cette bande de terrain. La largeur est beaucoup moins. Bon.
Parce qu'il y a une chose qui est très difficile pour les gens au cinéma, c'est la géographie. Le début du film, premièrement, cet homme sur son cheval, sur son socle, c'est pas en Lorraine ni à Metz, hein, c'est l'empereur, justement celui qui a été fait empereur à Versailles.
Quelqu'un dans l'IB qui a écrit en disant après un paysage messin, c'est pas du tout un paysage messin.
C'est le confluent de la Moselle qui se jette dans le Rhin. Et quand on passe le bateau et qu'on tourne vers la gauche, donc
on remonte sur le cours de la Moselle vers l'horizon.
Vers la Lorraine.
Et avant d'arriver à Metz, il y a une autre ville, qui est une ville allemande, qui s'appelle Trèves, qui était une ville jumelle pour les Romains. Il y avait Trèves et Metz pour les Romains. C'est là qu'il y avait les plus grands amphithéâtres romains en Europe. Celui de Trèves demeure, celui de Metz a été dynamité justement par l'empereur pour construire là-dessus la gare de Metz.
Après qu'il ait traversé la gare.
Et cet empereur-là, c'est le roi de Prusse sur ce cheval. C'est un monument qui avait été détruit pendant la guerre et que...
Non, il a été détruit après la guerre. C'est, même si je me souviens bien, les Américains qui l'ont détruit, ils l'ont fait sauter.
Oui, avec l'aide des Allemands qui en avaient un peu marre, ouais, du Rhin.
Et... Il restait le socle, parce que ça c'est tellement pesant.
Le socle a été là pendant 30 ans, jusqu'à ce qu'un éditeur célèbre de la région...
paye la statue qu'on a refaite.
Qui était un nostalgique... avec cette restauration. Alors, ce qu'on voit au début, c'est ce bonhomme sur son cheval. On va sur le Rhin, on quitte le Rhin pour rentrer sur l'embouchure de la Moselle dans le Rhin, et on remonte le cours de la Moselle et on s'arrête là. Et là arrive la carte de Metz avec les environs. Et là, faut préciser que ça, c'est pas du tout un... Alors, ce que ça a en commun, ce socle et cette situation là, c'est l'architecture, parce que c'est ce qu'on va retrouver à Metz, c'est ce qu'ont construit ces gens à Metz en 1900. C'était fini en 1906, 1901, 1902, c'est-à-dire la gare, la poste, un temple protestant, tous dans le même style néo-roman. Le même style que ce socle. Ouais. Mais il faut préciser que cette géographie-là, c'est le Rhin, ça n'a rien à faire avec la Lorraine. Et c'est ensuite l'embouchure de la Moselle, et la Moselle qui... Alors Trèves, c'était non seulement une ville romaine... jumelé avec Metz pour les Romains, mais c'est également la ville natale de Karl Marx, c'est ce qu'il faut rappeler. C'est ce que vous vouliez dire ?
Non, je voulais dire que pendant ce temps-là, on entendait une musique de M. Franz Joseph Haydn, et que cette musique, c'est l'origine du Deutschland über alles, voilà, pour ceux qui ne le savent pas.
Il y a toujours l'ouverture de vos films très inscrit dans un lieu, un espace, et toujours, je dirais, la motivation de départ. Là, bon, c'est Maastricht, c'est l'Europe qui est en train de se construire.
Il se trouve que c'est là, à la base, c'est tout, mais le point de départ, c'était de raconter une histoire d'une fille qui, au bout de 35 ans, dit non, c'est tout. Elle dit non, voilà. Elle dit non, elle dit... Et d'ailleurs, pas contre une Europe... hypothétique, elle dit je vous garderai une grande amitié, mais je ne peux pas être une Allemande et je ne veux pas vous épouser, c'est tout. Elle est pour sa frontière et sa différence. Elle veut pas faire voilà. Et c'était ça le point de départ. C'était de après tant d'années passées à Munich, quand même 11 ans en Allemagne, et un retour pour le Kafka et tant de films sur la ce qu'il y a de meilleur dans la culture allemande, qui va de Böll à Kafka en passant par Brecht et Schoenberg, et Hölderlin surtout, c'était quand même de relever la provocation de la soirée, et Barthes pour ne pas l'oublier, de relever la provocation de ces gens de Sarrebruck qui un beau jour s'adressent à nous parce qu'ils avaient envie de faire une soirée thématique ridicule sur Arte, qu'ils ont d'ailleurs faite, et qu'ils apprennent à la dernière minute qu'il y a là un bonhomme qui s'appelle Straub, qui était né à Metz. Alors il y en a un qui est un peu plus gentil et moins con que les autres, il me téléphone et me dit « Je vous propose de faire là ce que vous voulez, 2 heures, 3 heures ou 3 minutes. » Je lui dis « Non, foutez-moi la paix avec vos soirées thématiques, je trouve ça complètement con. » Et la Lorraine, je ne veux pas, elle m'a fait trop de bien pour que j'en dise du mal, elle m'a fait trop de mal pour que j'en dise du bien. La Lorraine, je dois 11 ans d'exil. Parce que c'est le tribunal des forces armées de Metz qui m'a condamné par contumace à 1 an de prison, et ensuite j'ai été pendant 11 ans dans le livre des recherchés à la frontière. Bon. Et puis au bout de quelques jours, je me dis, tiens, ben, je vais leur jouer un tour, puisqu'ils veulent un film sur la Lorraine, je vais leur faire un truc qui est un film anti-prussien, oui, qui est un film contre l'Europe et contre. Voilà, c'est ça.
Qui est là derrière, là? La fureur et la tristesse et la colère quand on a vu que les Français, ça a failli basculer, ils ont failli voter non, et qu'ils votaient oui quand même.
J'ai vu de braves amis à qui je téléphonais de Rome en disant « alors vous allez voter non », ils me disaient « on peut pas parce que Le Pen et Sbire font voter non ». C'est tout de même pas une raison suffisante, nom de Dieu.
Oui, mais il y a eu des manifs contre le non, même contre la guerre d'Irak, le Pen et le Pen aussi.
Ah oui. Oui, oui, je sais, mais nous, on est à la manif qu'il y a eu de la Bastille qui a commencé. Bon, on était, il y avait 100 000 personnes là. Mais 8 jours après,
c'est. On y était, on est parti 3 jours après.
On est arrivé à Berlin, dans les manifestations, c'était les gosses. Mais vraiment les gosses, les lycéens.
Parce que l'argumentation, souvent, c'était le plus dit la même chose que le père. Il dit non. Il dit non à la garde, il Pas pour les mêmes raisons, bien sûr.
Mais même pour Sarajevo, enfin parlons de Sarajevo, puisqu'on en a tellement parlé. Sarajevo, personne n'a eu le courage de se révolter. Moi, personnellement, je regrette, dès le point de départ, j'étais plutôt du côté de ce que Hanke a déclaré ensuite. Et Hanke, ça a été tellement loin, la psychose, la mode et l'oppression, c'était. Je voudrais pas mélanger les torchons et les serviettes, mais. Ce qui s'est passé avec Sarajevo, bien que la situation soit tout à fait différente, etc., c'est la même propagande étouffante que celle qui a eu lieu à l'époque de la guerre du Golfe. Et sans aller jusqu'à ce qu'a dit le...
D'autant plus honteux que la guerre civile en Yougoslavie, c'était nous, les Allemands d'abord et nous ensuite qui en étions responsables.
Mais même avant ça, on a fabriqué la balkanisation. Bon, ensuite, Tito s'en va, se fait balayer et tout ça renaît. Et qui va attiser le feu? Ça a été d'abord M. Kohl et ses sbires parce qu'ils se sont empressés de reconnaître les autres. Mais c'est eux qui ont fabriqué Sarajevo. Et c'est eux qui, ensuite, comme des tartuffes, et tout le monde a suivi ce mouvement, ont répandu des larmes sur Sarajevo, qu'ils avaient systématiquement provoqué et organisé. Alors, sans être pour M. Milosevic, de grâce, qui n'est d'ailleurs pas le monstre qu'on nous a raconté, la preuve, c'est qu'il vient de céder. Alors qu'à France Musique, deux jours avant, disons, oh là là, il a choisi la force. Et bien, le lendemain, ils sont tombés sur le nez, ils n'ont même pas le courage de s'excuser. Et quand Hanke a publié son truc, que tu n'es vraiment pas non plus un ami de Milosevic, son livre, eh bien, en France, son traducteur attitré n'a même pas osé le signer, M. Goldschmidt. Il l'a signé sous un pseudonyme. Ça en dit long sur la psychose que ça suppose. Et moi, j'ai toujours... Alors, il y a un monsieur qui est loin d'être un ange. C'est un bourgeois libéral égyptien. Il se trouve que par hasard, il est, comment est-ce qu'on appelle ça, secrétaire général de l'ONU. Ce type-là a eu des phrases très dures, mais ça n'a jamais été reproduit. Il a dit, cette guerre-là, au fond, des Bosniaques, etc., c'est une guerre de riches. Et de son point de vue, de pays du tiers-monde, il avait parfaitement raison. Parfaitement
ça
raison.
Lui a coûté sa place.
Ouais, enfin, les Américains, depuis, font tout pour le... Alors, la croisade contre l'Irak et la croisade morale en faveur de Sarajevo, je ne veux pas dire que c'est pareil, mais enfin, du point de vue de la bourgeoisie européenne, c'est la même chose. Toute la bourgeoisie intellectuelle allemande au moment de l'Irak, et même d'extrême gauche et de gauche, a basculé en faveur de cette croisade-là. Ils étaient tous à dire, oh là là, il faut aller
même
faire...
Même Enzensberger et des gens...
Il faut aller faire la guerre à un nouveau Hitler, mon Dieu.
Même Cohn-Bendit.
C'est lamentable, tout ça. Ouais.
Cohn-Bendit, on l'a vu à la télévision, quand on était en Allemagne, un soir où il expliquait qu'il avait des amis en France, des jeunes soldats français qui se faisaient tuer, etc., et qu'il fallait que les Allemands y aillent aussi. Enfin, c'est quand même inouï, parce qu'il aurait dû être content que les Allemands aient pas se faire tuer. Après tout, c'est pas un plus que d'avoir des jeunes gens qui vont se faire descendre aussi.
Il y avait une brave femme, là, qui était une serbe, qui s'est fait traiter de fasciste, c'était incroyable. Et par Cohn-Bendit et deux, trois autres. Cohn-Bendit, adjoint au maire à la culture de la ville de Francfort.
Cohn-Bendit est un tribun, ça, il a du talent, donc... La simple règle, vraiment de bon sens, le béaba, quand on a atteint l'âge de raison, c'est de savoir que quand tout le monde dit oui, ça cloche, faut se méfier, ça va pas. Ça, c'est quelque chose...
Parce qu'on vit dans un monde où la propagande est souveraine, elle crache tout.
Donc le Trigone, c'est un film qui affirme un peu ce que vous faites, c'est l'identité.
Non, alors j'ai appelé ce monsieur, je lui ai dit, bon, ben, je veux bien vous faire un film, ça sera très court, j'ai même dit que ça serait seulement 10 minutes, je ne savais pas. Et ça sera un film, si vous voulez que j'exagère un peu, ce sera un film anti-allemand. Et je suis seul à pouvoir me le permettre parce que on s'est assez occupé de culture allemande et avec combien d'amitié et d'amour pendant combien d'années. Et par conséquent, là, je me paye le luxe de faire un film anti-allemand parce que historiquement, il y a quelque chose là-dedans où il faut avoir le courage de dire la vérité. Et il m'a dit, bah, faites donc, comme c'est un monsieur tolérant, probablement qu'avec un fonctionnaire culturel français, ça n'aurait pas marché parce que ceux-là sont beaucoup moins tolérants.
Voilà, j'avais des complexes.
J'ai fait le film.
J'avais encore quelques complexes, c'est-à-dire que c'était un prix payé très cher pour être complexé, mais enfin, au moins, ils le sont. Encore.
Le texte d'Arès.
Bon, le texte
fonctionne très bien, c'est dans les choix que vous avez faits.
Bah, on a choisi X
il
pages.
A choisi. Bon. Moi, j'ai lu après pour savoir s'il y avait d'autres choses à utiliser, je lui ai dit non. Ouais. Mais moi, Barès, j'en ai... C'est juste si je connaissais le nom, hein, parce que je suis pas Lorraine, donc c'était pas ma mythologie.
Moi, le roman, je l'avais pas lu. Dans ma famille, il était à l'honneur dans la bibliothèque et il fallait même le cacher quand il y avait un coup de sonnette. De même, oui, parce que il y avait le gars là, ça c'était entre 40 et 45. C'était quand on sonnait, un type venait une fois par mois, on savait pas quand. Il furetait et la première chose qu'il faisait, il regardait la radio. Pas de télévision évidemment, il regardait la radio. Et mon père passait toutes ses nuits à écouter Londres. Et si les gens avaient comme eu l'imprudence de laisser le... Comment est-ce qu'on appelle ça l'aiguille sur Londres, ben c'était immédiatement la persécution, l'expulsion en Sibérie ou je ne sais pas quoi. Et de même, ils furetaient dans les bibliothèques. Et ce bouquin-là, il n'y avait pas tellement de paresse chez nous, mais il y avait ça. Parce que mon grand-père, mon père, etc., bon... Je ne sais pas s'il le connaissait très bien, mais enfin, c'était là, presque comme un symbole. Et parfois, peut-être qu'ils l'ont feuilleté. Et je me souviens, plusieurs fois, j'étais très jeune, je les ai vus aller voir quand il y avait un coup de sonnette et mettre le livre dans le fond. Voilà. Alors, bon, ça, c'est le genre de truc qui m'a cassé un petit peu, parce que je n'étais pas un patriote lorrain, mais enfin... Donc, quand j'ai eu l'idée de ce film, c'était indépendamment du roman, mais ensuite, je me suis dit, tiens, mais voilà quelqu'un qui a raconté une histoire, là, cette histoire de près de 50 ans d'annexion. Et je vais voir ce que c'est, puisque c'est tellement connu et que c'était tellement prisé chez moi et à Metz. Et ben, je l'ai feuilleté, puis j'ai trouvé là-dedans des pages qui m'ont plu, et on les a gardées, voilà, c'est tout. C'est pas...
Vous avez
écrit
sur très vite.
Et ce qui est bon, c'est que Barès, il avait un passé plus ou moins anarcho, je sais pas quoi, ensuite il était cette période-là, et ensuite il a même, à un moment donné, un peu basculé dans l'antisémitisme. Bon, mais là, à l'époque, ce roman-là, il est très clair.
Non, c'est pas basculé un petit peu dans l'antisémitisme.
Il a eu des phrases, une déclaration ignoble, ça c'est un fait.
Bon, quand même.
Au moment de l'affaire Dreyfus, c'était un fait. Bon. Mais à cette époque-là, il était. C'est très clair dans le texte, il parle de la synagogue, etc. Les protestants, les catholiques et les juifs de Metz sont pour eux des gens, des êtres humains, par égal.
Mais ça m'a d'ailleurs étonné, cette citation sur la synagogue qui est
incluse. Oh, faut savoir que
c'est vraiment la communauté
oui, mais
la part
entière. Il faut savoir qu'en plus.
De la part de Barès, oui.
Oui, mais il n'avait pas le choix en plus. Ça prouve qu'il était malgré tout honnête, même si son idéologie. Il a, parce que Metz, à Metz, à Chambière, là, pas loin de ce monument qu'on montre à la fin, il y a un des plus grands cimetières juifs de l'Est de la France. Hein. Il y a beaucoup, énormément de juifs à Metz. Donc.
Il y a tout de même, il y a une musique là. Et cette musique, elle se fait déchirer par des coups de feu. Et cette musique, c'est la naissance du Deutschland, du Varalos, mais c'est aussi autre chose. C'est en même temps...
Début de la résistance.
Oui, c'est en même temps une musique déchirante, malgré tout. Ouais. Pas seulement déchirée, elle est déchirante.
Il n'y a pas que ça, parce que cette mélodie qui est devenue le Deutschland, du Varalos, avant qu'ils écrivent des paroles là-dessus, c'était une mélodie en faveur, et c'est pour ça que Haydn a écrit son quatuor, C'était une mélodie pour célébrer le Franz Joseph d'Autriche. Bon. Ensuite, c'est passé en Allemagne. Les Allemands ont repris cette très belle mélodie, il n'y a rien à dire, pour en faire le Deutschland über alles, où ils affirment que l'Allemagne, c'est au-dessus de tout. Bon, enfin, la Marseillaise, ça vaut pas beaucoup mieux à ce niveau-là. Bon. Qu'un sang impur, etc. Bon. Alors, après la guerre, dans le Timor-Leste, évidemment, même pour les trois quarts des Allemands, il fallait abolir ça parce que c'était à l'origine du patriotisme qui avait conduit à la barbarie, etc. Mais enfin, ça, c'est toujours des excès. Bon. Ce Deutschland über alles, c'est aussi le, bon, c'est étant l'équivalent de la Marseillaise pour ces Germains, il faut bien qu'on sache que sur ce plateau de Gravelotte, là, si on se promène, on apprend lentement en regardant les tombes et en ramassant quelques documents dans les petits musées locaux qu'il y a eu, pour certaines batailles, deux fois plus de morts du côté allemand que du côté français. C'est énorme. Pour une armée qui finalement a remporté la guerre. Et alors, qui est mort là? Ben, évidemment, c'était la fine fleur des robots allemands, etc. C'est des gens.
La Prusse.
C'est exactement les gens comme les Stauffenberg qui ont placé la bombe à Hitler. C'est ceux-là. Et il y a même des Stauffenberg sur ces tombes-là. Il y en a beaucoup. Et alors, ce Deutschland über alles, c'est à la fois la conquête de ces gens qui viennent envahir un pays qui leur a déclaré la guerre, mais c'est aussi un hymne funèbre ou de deuil pour les morts là qui sont des deux côtés. Après tout, ils n'avaient pas non plus demandé à mourir là. Il se trouve qu'ils avaient un roi de Prusse un peu cinglé, mais enfin, encore une fois, c'est pas lui qui a déclenché la guerre. Bon, alors tout ça, mais les feux, ben, ça fait c'est trois couches différentes. Et on voit Metz, on voit les villages autour, et puis on voit la vallée de la Moselle, et puis voilà. Mais ça ne va pas jusqu'à Sarrebruck, hein, c'est une carte extrêmement détaillée. Ça ne va pas jusqu'à Sarrebruck, ni jusqu'à Oder-Altisch qu'on voit à la fin des paysages. Hein. C'est encore plus concentré, c'est là qu'ont eu les batailles, et c'est là que Bazen s'est vu un beau jour intimer l'ordre de la capitulation. Alors que ses armées n'avaient pas envie de capituler, c'est ça qui est extraordinaire. Oui. Non seulement ils ont déclenché la guerre, ils savaient qu'ils la perdaient, et à un certain moment ils ont anticipé la capitulation. Alors on pourrait dire que c'est une forme encore de bon sens plutôt que d'aller jusqu'au massacre. Mais il n'y avait pas que ça, il y a quand même eu une trahison là. Que Bazen soit un traître, comme il a été longtemps considéré, ou que ça soit d'autres gens qui l'aient poussé à, qui n'aient pas eu d'autre choix que de trahir, parce que le gouvernement l'a en quelque sorte poussé à la trahison, ça c'est... Je veux dire, il n'est pas sûr du tout que la bataille autour de Metz, du point de vue bêtement militaire, elle devait être perdue. Il y avait là énormément de corps d'armée français concentrés. Il n'est pas sûr du tout, et d'ailleurs les premières batailles où les Allemands ont perdu deux fois plus d'hommes, d'êtres humains que les Français, prouvent qu'on n'est pas sûr du tout que militairement ils auraient remporté la victoire. Alors par ailleurs ils avançaient vers Sedan, Paris, etc. Mais enfin, il y avait là un îlot où il y avait énormément, toute l'armée du Rhin était concentrée, etc. Moi je ne sais pas s'ils avaient été jusqu'au bout de la folie guerrière, comment ça serait terminé. Mais il se trouve qu'on leur a dit arrêtez, parce que... En plus, ils avaient la frousse que les Allemands envahissent Paris. Hein.
Toujours la même peur, oui. Ouais. Je suis toujours impressionné par les mouvements de caméra, qui sont... merci. Qui sont tellement précis, tellement exacts. Les panoramiques, notamment, non, parce qu'on retrouve beaucoup dans vos films. Bon, Trop tôt, trop tard étant peut-être le film où ils sont les plus manifestes.
Oui, avant Trop tôt, trop tard, on avait un brouillon, là, c'était le point de départ, c'était un peu Moïse Aron, mais c'était différent, c'était à l'intérieur d'une structure dramatique et d'un amphithéâtre, d'une ellipse. C'était comme une espèce d'oasis, mais il y avait. Il y avait un autre film, c'est Fortini, là, il y a les villages des Apouanes où les raideurs ont massacré des populations civiles. Ça, c'était le point de départ avant Trop tôt, trop tard.
Si... C'est proche de Fortini Cani, en fait, c'est assez proche de Fortini Cani.
Peut-être, oui. Oui, c'est plus près de Fortini Cani que de Trop tôt, trop tard. Je ne saurais pas dire pourquoi, mais vous avez probablement raison.
Parce que je pense que dans Trop tôt, trop tard, on sent les morts qu'il y a sous la terre. Et que quelque part aussi, on sent qu'il y a la terre dans le Trigun.
Dans Fortini Cani, vous voulez dire?
Oui. Mm. Et dans le Trigun, on sent aussi que sous la terre, il y a une histoire forte, quoi. Mm. Et des morts, et des départs.
Tandis que trop tard, c'est plutôt fait sur ce qui se passe au-dessus de la Terre.
Ouais. Tout à fait.
C'est-à-dire les mendiants, la pauvreté, les indigents, comme ils les appelaient, etc.
Sur les paysans.
Oui, sur les paysans.
Une carte blanche à Jean-Marie Strobaudin-Luyet, qui a commencé le 12 février et qui se poursuit jusqu'au 25 février au Grand Action. Et... cette carte blanche se poursuivra le 28 février jusqu'au 2 mars à la Cinémathèque République. Alors, ce sont des films, c'est l'intégrale de l'œuvre de Jean-Marie Straub et Daniel Huillet. Et à chaque séance qui suit leur film, eh bien, ils ont choisi eux-mêmes d'inscrire un programme librement, et donc ils ont eu une carte blanche où nous avons pu voir donc Les Rapaces de Stroheim, Monsieur Verdoux de Chaplin, A Corner in Wheat de Griffith, Un condamné à mort s'est échappé de Bresson, Les Hommes préfèrent les blondes de Hawks, Les Sœurs de Gion de Kenji Mizoguchi, Jour de colère de Dreyer, Le Caporal épinglé de Renoir, Vivre libre de Renoir toujours, Les Bourreaux meurent aussi et Casier judiciaire, enfin You and Me de Fritz Lang. Voilà, n'en jetez plus, vous pourrez voir à la Cinémathèque République, les films de John Ford, Les Cavaliers et Frontières chinoises, qui accompagneront ce qu'on appelle le Petit Schoenberg, Fortini Cani et Leçon d'histoire, Trop tôt, trop tard, de Jean-Marie Strobaudin-Luyet. Si vous le voulez, ce lundi et ce mardi, eh bien, vous pourrez voir L'Argent de Bresson en compagnie de L'Antigone, de Jean-Marie Strobaudin-Luyet, et Alexandre Nevsky, le mardi 25, d'Eisenstein, en compagnie, couplée, je dirais, en compagnie de Noir Péché, Henri Chachant et Cézanne, de Jean-Marie Straub et Daniel Huillet. Voilà, vous êtes au courant de tout, nous retrouvons Jean-Marie Straub et Daniel Huillet. Ils nous parlent ici de leur travail de repérage, travail de titan, méthode, je dirais, Louis Lumière.
Génial, ni quoi, hein. Il suffit d'avoir la patience de retourner 10 fois, de faire tout le tour en voiture, de se promener ensuite à pied dans tous les axes, et de monter sur la colline et de redescendre et d'aller au bistrot, etc. Ça, et quand on a trouvé ensuite le point juste d'où on voit une topographie, et là, c'est au bout de... Il faut beaucoup de patience. Il faut parfois retourner au bout d'un an, au bout de quelques semaines ou de quelques mois. Et une fois qu'on a fait ce travail-là, la précision, elle vient d'elle-même. Là, à la fin, on se dit, bon, là... Il vaut mieux commencer sur tel tronc d'arbre, et là, il vaut mieux éliminer à la fin tel poteau de haute tension, ou il vaut mieux le prendre, des choses comme ça. Il vaut mieux avoir de 3 cm plus de ciel ou moins de ciel, etc. Il vaut mieux éviter ces brins d'arbre au premier plan, ou au contraire, il faut les accepter, tout ça. C'est une question de centimètres en fin de compte, mais ça vient, c'est le résultat d'une patience, hein. Le génie, comme disait l'autre crétin, c'est une longue patience et rien d'autre. Hein. Faut pas...
Mais ça, ça me semble renouer quand même avec les débuts du cinéma, où en fin de compte, les contraintes, par exemple pour les films de lumière, il fallait repérer le lieu qu'on allait filmer par rapport à la lumière du jour, par rapport à ce qu'on voulait dire, etc. Ouais. Donc il y avait un travail de préparation énorme, que bien évidemment plus personne ne fait aujourd'hui parce que les choses
pourquoi ont l'air... ils ont le temps, ouais. Ça coûte rien ça, ouais, ils peuvent y aller,
c'est voilà. La délégation, c'est voilà. Le fait de croire que parce qu'on voilà. Filme on pense,
c'est du prix cuit,
oui. Voilà, du on enregistre puis on verra voilà. Ensuite voilà. C'est complètement aberrant,
voilà. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui vous êtes peut-être probablement les seuls avec bon parfois Godard fait ça, d'autres aussi parfois à choisir déjà à faire le travail de repérage que plus personne ne fait.
Oui, ça c'est exact. Les gens ne le font plus, on le fait pour eux.
Il y a même des gens très estimables qu'on connaît, je ne veux pas nommer, qui envoient des assistants repérer des lieux. ils envoient et ensuite ils vont voir, évidemment.
Oui, alors parce là, que... on leur en propose deux, trois et ils choisissent parmi les deux. Et c'est complètement. Ça ne tient pas debout, c'est pas.
Mais nous, avant de voir. De choisir entre deux, trois positions ou des lieux, on en a vu 40 nous-mêmes et on se dit que ça ne sert à rien d'envoyer un pauvre con qui ne sait pas vraiment ce qu'il cherche. Ce n'est pas humain ni pour lui, ni pour le film, ni pour nous.
Évidemment, c'est fatigant.
Mais c'est aussi reposant non, parce que c'est pas un travail.
C'est passionnant parce qu'on voit des choses qu'on ne verrait pas si. Le premier village qu'on voit, en cherchant, on est monté manger un sandwich dans un bistrot. Et qu'est-ce qu'on voit au mur? Une reproduction du joueur de cartes.
Hasard, sûr, par Jean-Marie Straubel-Luyet, les joueurs de cartes de Cézanne dans un bistrot alors qu'ils font un travail de repérage pour le film Lothringen. D'ailleurs, vous pourrez voir ce 25 février au Grand Action, le Cézanne de Jean-Marie Straubel-Luyet, avec Henri Chachan et Noir Péché, et le film est couplé, je dirais, dans leur carte blanche avec Alexandre Nevsky. Il y aura un débat avec Dominique Pagny, le directeur de la Cinémathèque française, après le film. La semaine prochaine, Passerelle continue avec Jean-Marie Straub, Daniel Huyet. J'ai voulu faire cette conversation libre parce qu'on n'entend pas très souvent ces deux grands cinéastes sur les ondes. Donc, à voir absolument, du jour au lendemain, Lothringen au Studio des Ursulines et les cartes blanches à l'Action et à la Cinémathèque République. Voilà, Passerelle, c'est fini. À la semaine prochaine.